Voici venue l'heure du voyage biographique. Partir, grâce au documentaire, sur la piste de ces hommes et femmes d'exception qui nous ont laissé une trace durable et inspirante. Bonjour à toutes, bonjour à tous et bienvenue dans Toute une vie. De Casque d'or à Madame Rosa, Simone Signoret a tourné plusieurs dizaines de films. Première actrice française à recevoir un Oscar à Hollywood, elle est aussi une femme de tête et de cœur. Aujourd'hui, Dominique Missica et Ghislaine David vous proposent le portrait de Simone Signoret, 1921-1985, si toute une vie a incarné tous les âges de la vie en regardant la vie en face.
J'ai été certainement très amoureuse à 5 ans d'un garçon qui devait en avoir 17 ou 16, je ne sais pas exactement, et qui était en vacances sur une plage du Midi. Et j'étais vraiment, enfin, très 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 petite enfant, et je me rappelle très bien que je voulais être avec lui, et même peut-être inconsciemment, je profitais de ma très très fraîche jeunesse pour me faire prendre dans les bras et me faire porter et le toucher. Enfin, ça, il y avait contact, certainement. Ça, je m'en souviens très bien.
Que faut-il faire pour réussir au cinéma? Comment avez-vous fait?
C'est la vieille méthode, Elle
consiste en quoi?
J'ai fait de la figuration, puis j'ai fait des silhouettes, comme on dit. Silhouette, c'est quand on a deux, trois mots, comme ça. Puis j'ai refait de la figuration, puis j'ai refait des silhouettes, puis j'ai fait des petits rôles. Je crois, enfin, ça, c'est, je peux pas dire ce qu'il faut faire, c'est ce qui m'est arrivé à moi, mais...
Qui donc est Simone Signoret? Son visage indique, paraît-il, que le cœur et le cerveau dominent alternativement chez elle. Et c'est en effet leur lutte constante que trahissent la plupart de ses réponses. Son intelligence est très grande et l'on a pu remarquer qu'elle comprend instantanément la portée et le sens des questions les plus embrouillées et qu'elle y répond avec pénétration et clarté. Sa sensibilité est également très grande, très vive, et l'amour est de son propre aveu la grande affaire de sa vie. Elle s'accepte en tant que femme, elle assume, selon la phraséologie à la mode, son rôle et sa responsabilité de femme. Pourtant, ces deux grandes tendances de son caractère ne vont pas sans déterminer certains heurts. Elle touche du bois, mais elle proteste aussitôt qu'elle n'est pas superstitieuse. Elle est reconnaissante du bien qu'on peut lui faire, mais elle juge que la reconnaissance est entachée d'une espèce de tare parce que le donnant-donnant choque sa sensibilité. Elle veille constamment à ne pas se laisser aller. Elle n'admet cet abandon qu'à la faveur d'une passion authentique. La femme est faite pour l'amour.
Quand vous apercevez Signoret à l'âge de 20 ans, elle est née en 21, elle a 20 ans donc pendant l'occupation.
Olivier Baron.
Et vous êtes confronté à quelqu'un qui est d'une beauté, d'une élégance, d'une provocation aussi, et qui sont absolument sidérantes. C'est-à-dire que par rapport à ses contemporaines, et Dieu sait si elle a eu des femmes remarquables elles aussi, dans le métier du théâtre et du cinéma dans ces années-là, on peut citer des Michel Morgan, des Daniel Darieux, des Micheline Prel, des Daniel Delorme et beaucoup d'autres. Bon, mais Signoret, le visage, l'allure, la démarche, la manière dont elle est faite sont exceptionnelles. C'est plus que de la beauté, je crois. C'est pas non plus de la grâce. C'est une forme de puissance, d'intensité qui tient à son regard, qui tient au dessin de sa bouche, qui tient à la forme de son nez, se lisent sur ses traits les éléments de son caractère, et notamment l'intelligence et le fait qu'il n'est dupe de rien. Alors on la voit dans La boîte aux rêves en 41-42, qui est un film de son mari, de son compagnon de l'époque, Yves Allégret. Elle apparaît dans un bistrot enfumé d'étudiants d'ailleurs, qu'elle fréquente par ailleurs puisqu'elle est familière de Saint-Germain-des-Prés dans ces années-là, qu'elle est toute proche de la bande de Jacques Prévert, bref, de ce qu'on peut appeler l'avant-garde pendant les années de l'occupation. Et elle a une scène, et vous ne voyez qu'elle. Évidemment, c'est un film en noir et blanc, elle est d'ailleurs habillée en noir et blanc dans la scène en question, et elle irradie littéralement. Mais Signoret n'est pas quelqu'un qui est obsédé par son image. Pas du tout. Elle est passionnée par son époque, Et si elle a choisi le pseudonyme de Signoret, qui est celui d'un grand acteur disparu, elle est née Caminquer, hein, elle est née en Allemagne, parce que son père y occupait les fonctions, pendant que cette région de la Rhénanie était occupée par l'armée française.
Et Simone était, ce que vous dites, une grande bourgeoisie. Son père était un grand interprète. C'est lui qui a inventé d'ailleurs la traduction simultanée.
Costa Gavras.
On disait même une blague, on disait que quand le père de Simone était dans un hôtel, le matin on le réveillait, on disait « Monsieur Caminquer, il est 8h30 », automatiquement il répétait le mot dans une autre langue. C'était la blague. C'est Simone qui m'avait raconté ça.
Elle a choisi comme pseudonyme le nom d'un grand acteur de théâtre et de cinéma à 16 heures, à l'époque du muet, Gabriel Signoret. Donc elle pense bien sûr au spectacle, mais elle pense à la vie, elle pense à l'époque, elle pense à l'intelligence. Elle ne sait pas encore quand elle a 20 ans qu'elle écrira des livres qui sont à son aune, qui sont d'une qualité merveilleuse et qui perdurent de nos jours encore. La nostalgie n'est plus ce qu'elle était, c'est pas simplement le titre d'un livre, c'est devenu une expression consacrée. Bon, c'est ça Signoret, c'est que c'est un ensemble.
Allez, on répète. Vite en place. Simone. Le Saf. Attention, prêt. Partez. Plus près le Saf, plus près. Attendez Simone, recommençons. Laissez-le venir un tout petit peu plus près, je le vois pas du tout. Hein. Reprenons. Attention. Laissez le champ libre. Partez.
Alors on la voit pour la première fois sur un écran sous l'occupation, puisqu'elle était secrétaire de Jean Luchaire. Jean Luchaire qui avait une fille, Corinne, qui était actrice et qui l'a un petit peu entraînée à faire des apparitions et de la figuration dans un certain nombre de films, pendant à peu près il y a une dizaine de films dans lesquels on la voit apparaître de façon plus ou moins importante. Le plus connu, le plus notoire, c'est Le Visiteur du Soir, dans lequel on la voit, elle fait de la figuration dans Le Banquet. Alors, heureusement, il y a eu la vidéo qui est arrivée, puis le DVD, ce qui fait que maintenant on peut faire des arrêts sur l'image, mais pendant très longtemps, c'était une espèce de mystère. Est-ce que Simone Signoret était bien dans Le Visiteur du Soir? Oui, elle y est bien, on s'en rend compte.
Jean Olé la Prune.
Il y a quelques autres films où, effectivement, elle apparaît, L'Ange de la Nuit, ou on la voit également dans Adieu Léonard de Pierre Prévert, qui sont des rôles où elle n'est pas vraiment remarquée. Et celui qui va véritablement faire d'elle une comédienne, qui va commencer à faire la une des magazines cinéma de l'époque, c'est Yves Allégret, le metteur en scène Yves Allégret, petit frère de Marc Allégret, de la famille Allégret qui avait inspiré André Gide pour Les Faux Monnayeurs, qui à l'époque se cherchait un petit peu, il veut devenir metteur en scène. Il va mettre en scène Simone Signoret dans un film, pour la première fois on va la remarquer, c'est un film de guerre qui s'appelle Les Démons de l'Aube avec Georges Marchal, qui est un film sur le débarquement en Provence dans lequel Simone Signoret a 2-3 scènes. Et là, pour le coup, effectivement, elle crève l'écran dans un film de celui qui n'est pas encore son mari et qui va le devenir en 1948.
Signoret accède à la notoriété reconnue en matière de cinéma avec les films d'Allégret de la fin des années 40, et notamment, bien sûr, le Manège et Dédé d'Anvers, qui ont en commun d'être l'un comme l'autre écrits par un grand ami du couple, Jacques Ségur, qui est un scénariste remarquable et un peu oublié. C'est à lui qu'on doit aussi Une si jolie petite plage, avec Gérard Philippe et Madeleine Robinson, autre film d'Allégret d'ailleurs, qui est un film de 48, et en 47 et en 49, elle tourne Manège et Dédé d'Anvers avec l'admirable Jeanne Marquen, qui joue sa mère, qui est un peu son inspiratrice diabolique. Là-dedans, Simone Signoret joue une véritable salope, c'est-à-dire une femme qui manipule les hommes. Vengeance d'ailleurs plutôt de la mère, hein, la mère qui a été maltraitée et qui instrumente sa fille pour se venger des hommes qui sont tous ou des malheureux ou des paumés. L'un d'entre eux étant Bernard Blier, qui est l'acteur magnifique que l'on sait et qui est victimisé en quelque sorte par sa compagne, la diabolique Simone Signoret. Il faut dire que Allégret, son metteur en scène, avec lequel d'ailleurs elle a des rapports à la fois de proximité, ils auront un enfant ensemble, Catherine Allégret, mais duquel elle est en train de se détacher, parce qu'elle a trouvé d'autres choses. Elle habite à l'époque rue du Dragon, avec Allégret, dans un immeuble où résident des quantités de gens qui l'intéressent énormément. Entre autres, Montand n'est pas dans le coup encore à ce moment-là, hein. Mais il y a Alain Resnais, il y a François Chaumette, il y a Gérard Philippe, il y a Maria Cazares, c'est-à-dire vraiment ce qu'on peut appeler l'avant-garde, l'intelligentsia, la nouvelle génération de comédiens, de metteurs en scène, Alain Resnais, qui vont exploser à la fin des années 50. Bon. Ou un peu avant, bien sûr, dans le cas de Gérard Philippe. Et il se trouve que Signoret entend ce que veut lui faire jouer Allégret. Allégret est un metteur en scène extrêmement puissant. C'est un type qui est peu chaleureux, probablement assez pessimiste dans l'existence et dont la vision du monde à travers les films que j'ai cités, notamment Manège et Dédé d'Anvers, est extraordinairement noire. Ce sont des films noirs. Ce ne sont pas des polars, ce sont des films noirs, complètement désespérés. Et c'est d'ailleurs consubstantiel à l'époque. À la fin des années 40, le pays va mal. On souffre de toutes les pénuries. Il y a des grèves à répétition. Les gens sont malheureux. Il n'y a pas de boulot. Il n'y a pas de logement. On craint une troisième guerre mondiale dans ces années-là. On a du mal à se le figurer aujourd'hui, mais c'est pourtant bel et bien la réalité. Et les films d'Allégret sont complètement contemporains de ça. Tout à fait à l'écoute de ce pessimisme généralisé qu'incarne admirablement Signoret. Dans un rôle comme ça, dans des rôles comme ça qui sont des rôles fatals. Ce sont des Médées, ce sont des vengeresses.
J'aime bien voir les hommes se battre. Ils se font jamais assez de mal.
Vous les aimez pas ?
Non. Je les aime trop. Ça revient au même.
Alors, Dédé d'Anvers est un film sombre, un film noir, vraiment dans la tradition de ce que, par exemple, Carnet pouvait faire avant la guerre, où on voit des ruelles. Le film était censé se dérouler, est censé se dérouler à Anvers, sauf que le maire d'Anvers a toujours refusé à ce qu'on tourne dans sa ville, parce que, dit-il, il n'y a pas de maison close à Anvers. Car le film raconte l'histoire d'une prostituée, son souteneur, c'est Marcel Daliot, le bar dans lequel elle exerce sa profession tenu par Bernard Blier, et un jour il y a un marin incarné par Marcel Pagliero qui était un comédien italien qui est tout à fait notoire à cause notamment de Rome ville ouverte dans lequel il joue le rôle d'un résistant communiste, et donc ce marin va bouleverser la vie de Dédé d'Anvers. C'est un film qui va créer beaucoup de scandales, qui va donner lieu à beaucoup de discussions. Très bonne ambiance sur le plateau. Marcel Daliot est absolument ravi de son rôle. Et Simone Signoret se rendait bien compte qu'elle rentrait un petit peu dans un emploi très très typé, puisque les photos qu'elle va faire passer dans des magazines style l'écran français la montrent à l'inverse de son personnage du Dédé d'Anvers, personnage du prostitué, alors que les photos de l'écran français la montrent plutôt en brave fille, en pull à col roulé.
Tu vas venir te voir ce soir ?
C'est assez plaisir pour pantienner. Total, mon Dédé.
Dédé d'Anvers, c'est un film qui va la faire remarquer aux États-Unis. Le film aura un très gros succès. Et il y a une personne qui va la remarquer, qui est Howard Hughes, qui à l'époque a pour habitude de faire venir des comédiennes européennes et françaises en particulier. Et donc par l'intermédiaire d'un agent qui s'appelle Charles Feldman, on va proposer à Simone Signoret un contrat pour 4 films pendant 4 ans, ce qui est drôle parce qu'au même moment, Simone Signoret, avec l'essentiel du cinéma français, manifeste contre les accords Bloom-Burns et contre l'invasion du cinéma américain. Alors je crois que le contrat sera plus ou moins signé d'ailleurs, mais ne sera jamais honoré, jamais exécuté, et il faudra attendre le milieu des années 60 pour que Simone Signoret tourne sur le territoire américain.
Je te demande où tu étais.
Au bassin.
Au bassin, que tu as été faire là-bas?
Mais me promener, je te réponds, t'es sourd, non ?
Tu vas te promener au bassin, toi, tu te fous de moi ?
Elle a peu de concurrentes du point de vue de l'éclat, faut bien reconnaître. Bon, enfin, elle en a quelques-unes, mais peu ont cette espèce de souveraineté. Bon. Par ailleurs, c'est une actrice extrêmement véhémente, extrêmement juste, mais très puissante. En ça, elle diffère complètement d'une tradition française de comédiennes magnifiques, mais qui sont à l'aise, je dirais, dans la porcelaine de Saxe ou dans des emplois de coquette, de raffinement, etc. L'exemple premier qui me vient à l'esprit étant évidemment Daniel Darieux, sublime s'il en fut. Mais Daniel Darieux, c'est un bijou. Bon. On ne peut pas dire de Signoret que ce soit un bijou. Signoret, c'est une force qui va. En plus, si vous prenez les concurrentes ou les contemporaines, on n'entend pas tellement parler des personnes que j'ai citées pour autre chose que pour l'exercice du métier de comédien ou de comédienne. Signoret, si. De surcroît, elle va montrer l'étendue de ses capacités dramatiques. On a cité Allégret, il faut bien sûr citer Becker, 1951, Casque d'or. Bon, là, il y a comme une sorte de transfiguration. Elle était un génie maléfique, brune, noire, sombre dans les films d'Allégret. Elle est cette somptueuse créature blonde dans Casque d'or, où elle va s'éprendre de son contemporain exact et ami Saint-Gédiani jusqu'à la mort, puisqu'on sait qu'il finit sur l'échafaud. Bon, c'est d'ailleurs une histoire en partie vraie. Et il y a là alors autre chose. Elle passe d'une femme qui manipule les hommes à la plus grande amoureuse. C'est une amoureuse éprise de quelqu'un dont la destinée est nécessairement tragique. Parce qu'en fait, il s'agit d'une tragédie d'amour. Comment voulez-vous que le public de ces années-là ne soit pas séduit, mais surpris aussi que la Signoret qu'on a connue dans le sombre, dans le noir, passe d'un seul coup à cette lumière irradiante.
Paul, la rame. Laisse la rame.
Pourquoi ça m'amuse?
T'es laissé ramer, non?
Et alors, j'ai pas bien ramé?
T'as très bien ramé, Marie, t'as très bien ramé.
Alex,
laisse la rame, je te dis.
Pauvre mec, là. Je crois que...
Tu penses avec un gars pareil? Oh, ma jolie.
Quoi?
Rien. Alors quoi, vous avancez? Dites donc, on n'attend pas nos hommes?
Penses-tu, ils attachent les barques.
On fait la course? Elle est la première arrivée!
Casque d'or, c'est bien sûr le rôle de Simone Signoret. Quand elle disparaîtra, tous les journaux titreront « Casque d'or est parti, Casque d'or nous a quittés ». Il faut savoir, Casque d'or, c'est une prostituée, et le cadre du film, c'est le Paris de la Belle Époque, avec des bandes rivales qui s'affrontent, avec Casque d'or, la prostituée, qui va tomber amoureuse d'un ouvrier mandat. Il faut savoir que c'est un sujet qui, curieusement, a traîné pendant assez longtemps. Julien Duvivier, avant la guerre, voulait faire un Casque d'or. Henri-Georges Clouzot, juste après la guerre, voulait faire également Casque d'or. Yves Allégret, en 1948, pensait déjà à faire Casque d'or et déjà avec Simone Signoret. Et finalement, c'est Jacques Becker qui va le faire de façon assez surprenante parce que il voulait Simone Signoret, qui elle ne voulait pas le faire le rôle. À l'époque, elle l'avait rencontré il y a longtemps, elle voulait rester avec lui dans le sud de la France où il tournait Le salaire de la peur. Elle n'avait aucune envie d'aller à Paris tourner ce rôle dans un petit film. Et finalement, c'est Becker qui, en insistant énormément, en la menaçant, en disant puisque c'est comme ça, je vais prendre quelqu'un d'autre, qui finalement va convaincre Simone Signoret de tenir le rôle le plus important de sa carrière, en tout cas celui qu'on évoque à chaque fois. Sachant que le tournage, et ça se voit dans le film d'ailleurs, s'est déroulé de façon extrêmement agréable. Tous les participants n'ont eu que des mots extrêmement élogieux sur l'ambiance qui pouvait régner sur le plateau, sur la bonne humeur. Un film d'amitié, un film d'amour, dira Simone Signoret dans son livre de souvenirs, pour arriver à la fin, arriver à un film qui effectivement est un chef-d'œuvre. Le film est commencé à sortir à Bruxelles, en avant-première, comme ça se faisait à l'époque. Il sortait un mois avant Paris, dans une salle de Bruxelles, où l'accueil a été plus que tiède. Il a été déprogrammé relativement rapidement. Les critiques en France ont été mauvaises. Georges Sadoul, dans Les Lettres françaises, au début, a fait une critique élogieuse du film parce que Jacques Becker, avant qu'il écrive une autre critique, pour le coup, beaucoup plus négative, parce que l'image de la classe ouvrière n'était pas celle qui était dans la ligne du parti. Donc il a été obligé de faire une critique négative du film. Et petit à petit, le film va faire son chemin. Et curieusement, le succès va venir d'Angleterre. Va venir d'Angleterre, où là, Golden Mary, qui est le titre anglais du film, va se faire connaître. Simone Signoret va recevoir un prix d'interprétation extrêmement important et le film finira par avoir la postérité que l'on connaît.
Je suis extrêmement émue de ce qui m'est arrivé aujourd'hui. Je veux remercier du fond de mon cœur le British Academy Award Association et surtout aussi Jacques Becker, grâce auquel j'ai pu obtenir la distinction qu'on m'a remise aujourd'hui.
C'était le rôle que vous préfériez jusqu'à maintenant?
C'est sûrement avec Dédé Desvendeurs, pour lequel j'ai une vieille tendresse, parce qu'il m'a été merveilleusement bénéfique dans ma carrière. C'est celui que je préfère.
Ça fait du bien de prendre un peu de soleil. Hein?
Ah oui, on joue aux boules.
Quels sont vos partenaires, vos amis de Saint-Paul?
Oh, il y a Reggiani, Jacques Prévert, Roger Pigot, Clouzot et sa femme, Simone Signoret.
Ah, je la connais, c'est l'épouse Raquin.
Elle est aussi devenue ma femme, vous savez.
Eh bien, dites donc, c'est rassurant. Vous n'avez pas lu Zola? Vous n'avez pas vu le film de Marcel Carnet?
Mais dites donc, vous, qu'est-ce que vous croyez? Hein? Vous espérez peut-être jeter la vitanie dans mon ménage?
Ah, mon Dieu, voilà la pétroleuse. Mais pas du tout, cher ami. Avec Yves Montand ici présent, nous parlions de choses et d'autres.
C'est moi, les autres?
Non, pas du tout, merveilleuse actrice, pas du tout. Nous étions à Saint-Paul-de-Vence.
À l'époque, Buñuel avait un engagement pour faire deux films en français. Le premier sera « Cela s'appelle l'aurore » avec Georges Marchal, et le deuxième « La mort en ce jardin » avec encore Georges Marchal, plus Charles Vanel, plus Michel Girardon, plus donc Simone Signoret. C'est un film très curieux dans la carrière de Luis Buñuel. C'est un film très sérieux, pas du tout ne répondant pas du tout aux stéréotypes surréalistes et fantastiques qu'il y a souvent chez le metteur en scène. C'est un film qui est plutôt un film d'aventure, dans lequel on trouve de temps à autre des espèces de fulgurances qu'il n'y a que chez Buñuel, où on voit par exemple un œil crevé à un moment, on voit un serpent dévoré par des fourmis, on voit Simone Signoret se promener en robe au milieu de la jungle. C'est plus une histoire de cavale dans la forêt amazonienne par un groupe de Français, de chercheurs d'or qui sont traqués par le gouvernement. C'est un film que Buñuel n'aimait pas beaucoup parce que le film était très sérieux et parce qu'il avait des gros problèmes de scénario, à tel point qu'il a été obligé de faire appel à Raymond Queneau, qu'il a fait venir au Mexique pour écrire au jour le jour un certain nombre de répliques et de scènes. Et ça s'est moitié bien passé avec Simone Signoret, qui manifestement a pris ça pour des vacances. Dans son livre de souvenirs, La nostalgie n'est plus ce qu'elle était, elle dit que c'était un pays merveilleux, qu'elle s'est beaucoup amusée avec Michel Piccoli, qu'elle s'est beaucoup amusée avec Charles Vanel, que les gens étaient formidables, pendant que Buñuel, lui, de son côté, dans son propre livre de souvenirs, disait que les Français étaient quand même pas très très sérieux et qu'il avait demandé à un de ses techniciens de venir avec un mètre et de compter 100 mètres par rapport à la caméra et au bout de ces 100 mètres, de mettre les sièges des comédiens français qui ne voulaient plus voir à côté de lui parce qu'il déconcentrait tout le monde.
Mon petit restaurant au bord de la mer.
Mon petit restaurant au bord de la mer. Cloche, ben. Minable. Oh là là. Je m'en sortirai jamais. Et c'est ta faute d'ailleurs, parce que c'est toi qui m'as entraîné ici. Fous-moi la paix. Tu me dégoûtes. T'es vieux, t'es moche, t'entends? Et puis tiens, enlève-la ton magot. Tu l'as bien vu, hein? Eh ben j'en veux plus.
Cette fille est sans pitié.
Oh, vous, on vous demande rien, hein? Mais c'est vrai, tu ne t'entends même pas dans
cette... Dis donc, c'est fini la musique, oui.
T'avises pas de recommencer. Maintenant, je vous conseille de dormir.
C'est l'amour.
Alors, Simone Signoret, qu'en pensez-vous?
Ça me plaît bien.
Pourtant, vous devez être habitué, c'est pas une obsession.
L'obsession de quoi?
Tous ces mots, toutes ces phrases, moi, quand j'entends chanter mon temps une fois le matin, en me rasant, je le chante toute la journée. Alors vous, qui vivez avec lui...
Ah oui, mais moi, il ne chante jamais en se rasant. Ça, c'est la différence qu'il y a entre vous et moi.
Ça marche bien pour Yvan en ce moment.
Ça
marche
bien
pour lui.
Ah oui, ça va bien.
Vous le suivez dans tous ses voyages?
Chaque fois que je peux, oui.
C'est vrai, dans le fond, on est tellement habitués à vous voir ensemble qu'on a oublié à quel point vous étiez unis. C'est assez rare.
C'est gentil ce que vous me dites.
Est-ce que par hasard, vous vous aimeriez?
On s'aime et on s'aime bien. On s'aime bien et on s'aime.
Simone est une amoureuse absolue de son homme, de son, comme elle dit, et elle a beaucoup de mal à le quitter, à se séparer de lui. Donc là, il y a des scènes comme ça, parce qu'elle n'arrive pas à partir. Et le summum de ça, c'est quand elle doit aller tourner
Patrick Rothman
au Mexique, un film de Buñuel, La mort en ce jardin. Et donc, elle part pour plusieurs mois et ça a été terrible. Il a fallu presque la droguer, la mettre dans l'avion de force, tellement elle se refusait à quitter Montand. Donc, il y a un lien passionnel extrêmement puissant des deux côtés hein, pendant ces années-là. On ne comprend rien à l'histoire de Montand si on ne sait pas d'où il sort, c'est-à-dire d'une famille d'émigrés italiens avec un père communiste. Antifasciste, qui a fui le fascisme, et ça a totalement façonné la vie de Montand. Alors lui, il n'a jamais été dans ces années 30 où toute sa famille est engagée, son père, son frère, qui est militant très actif des jeunesses communistes, puis du Parti communiste, qui mène des grèves, qui etc. Donc il a une espèce d'engagement qui est plus peut-être moral que politique, mais il y a cet engagement. Pratiquement au moment où il rencontre Simone, qui jusque-là, elle, a fréquenté les milieux de Saint-Germain, plutôt trotskisant, surréaliste, Prévert et compagnie, que communiste. Mais il est vrai que là ici, il faut se remettre dans le contexte de l'époque, qui est celui de la guerre froide qui commence, de ces deux blocs qui s'affrontent, de cette guerre idéologique très très puissante, dans laquelle le mouvement communiste international va se lancer avec les fameuses histoires de l'appel de Stockholm contre la bombe atomique. Et c'est là leur premier engagement. Ils signent cet appel contre la bombe atomique et ils vont faire un peu des estrades sur, avec le mouvement de la paix, le mouvement contre la bombe, réciter des poèmes, Montand va chanter avec Gérard Philippe, etc. Il y a cet engagement compagnon de route de toute cette époque des années 50, un peu aveugle, il faut bien le dire, mais enfin c'est facile d'être lucide 20 ans ou 30 ans plus tard. Il va y avoir ce lien supplémentaire, disons, de l'engagement commun dans un combat qui est à l'époque celui des bons contre les méchants.
Voilà maintenant Simone Signoret et Yves Montand, mais je dois signaler que Simone Signoret a un ravissant béret de vison gris clair qui ressemble beaucoup à ces jolies anciennes coiffures russes que l'on voyait lorsque les femmes allaient à traîneau. C'est vrai, hein?
C'est vrai.
C'est vrai. C'est vrai, je ne l'ai pas fait exprès. Non. Mais si ça fait très russe, ben, je suis très contente.
Oui, mais ça, justement, je suis sûre que vous ne l'avez pas fait exprès. J'ai remarqué en arrivant, parce que c'est joli.
Quand il y a longtemps que j'avais envie de ça.
Alors Yves Montand, nous allons parler un petit peu de ce déjeuner qui vient d'avoir lieu. C'était la première fois que les acteurs français rencontraient les acteurs russes.
Oui, à Paris, oui, en
à
tout
Paris.
Cas.
Quelles sont vos impressions?
Eh bien, moi, je trouve ça formidable. Et je pense qu'on devrait faire ça beaucoup plus souvent, et aussi bien avec les Soviétiques qu'avec les Tchécoslovaques, qu'avec les Allemands, qu'avec les Américains, qu'avec les Anglais.
Ils vous connaissent bien, je crois, en Russie.
Oui, ils me connaissent beaucoup à travers le disque. Je trouve que c'est très bon, et je trouve que c'est en tout cas très bon pour tous les pays du monde. Ces échanges culturels ne peuvent être au contraire un lien de solidarité dans l'art. Et quand on commence à être avoir une forme de sympathie, de chaleur dans l'art, eh bien on l'obtient après ensuite par autre chose, dans d'autres domaines. Et mon Dieu, c'est pas si mal que ça.
Moi, ce serait très intéressant de vous voir faire un tour de chant là-bas. Est-ce que vous croyez que le public russe serait aussi réceptif que le nôtre?
Eh bien, écoutez, je dois vous dire une chose, c'est que les gens de Leningrad ont reçu les voyageurs du bateau russe, c'est-à-dire les 8000 soviétiques qui étaient à l'arrivée du bateau, ont entonné le gamin de Paris en signe de bienvenue aux passagers du bateau.
Ce qui rend ma question donc complètement superflue. Alors peut-être allez-vous porter vos chansons là-bas?
Oui, je dois y aller au mois de septembre et octobre prochain. D'ailleurs, mon but est d'aller à l'Union soviétique pendant 4 mois et tous les pays de l'Est, et ensuite, vraisemblablement, aller à New York.
Et vous, Simone Signoret, est-ce que vous pensez tourner là-bas? Des films, parce que vous, c'est plutôt le théâtre et le cinéma, d'ailleurs. En ce moment, vous jouez toujours les sorcières.
Moi, j'ai deux films à elle, là-bas.
J'ai deux films à moi, là-bas, mais j'irai surtout avec un grand plaisir pour accompagner mon mari et être la femme du monsieur qui chante avec beaucoup de plaisir.
Quand certaines personnes avaient des problèmes, ou quand il fallait faire signer une pétition, passait souvent par Simone. La première, si Simone avait signé, on sait après la liste allait se rallonger très facilement. Je me souviens quand ils ont voulu faire à l'MDésir, etc., SOS Racisme. Ils sont venus par Simone. Et c'est elle qui m'a dit, ils vous font ça, moi je pense que c'est une bonne idée, si tu veux, il faut y aller aussi. Et nous sommes tous allés. Et il y avait ce côté-là. Je me souviens par exemple quand une Espagnole, dont le mari était condamné à mort en Espagne, Grimaud, elle est venue à Simone. Elle appelait Lazareff, il y a eu la première page de la dame et de lui en François, avec un appel de tout faire pour sauver l'homme. On n'a pas pu le sauver, mais je veux dire, alors il y avait ça.
Pologne, le régime durcit sa campagne contre Solidarité à la veille d'une nouvelle loi supprimant les syndicats existants. Invité de ce journal, Simone Signoret et le philosophe Michel Foucault qui reviennent de Pologne.
Chaque fois qu'il y a une crise dans laquelle on nous retrouve, nous, en train de nous battre pour ou contre quelque chose, il y a immanquablement une petite poignée de lettres qui arrivent en disant « Écoutez, mêlez-vous de ce qui vous regarde, vous m'agacez. » Pourquoi on nous retirerait à nous, uniquement parce qu'on est des saltimbanques, le droit et la faculté d'avoir des opinions sur des choses? Alors dans notre cas, c'est un peu difficile à défendre, je comprends, puisque elles ont pu changer les opinions. Oui, elles ont changé sur certaines choses, elles n'ont pas changé sur les choses fondamentales. C'est vrai qu'il fallait être contre la bombe atomique tout de suite après Hiroshima, mais c'est vrai aussi que les pays qui luttaient contre les dangers atomiques maintenant possèdent ces armes atomiques. Alors, c'est pas nous qui avons changé, c'est eux. Alors peut-être il faut atteindre la sagesse et l'égoïsme total de dire « Écoutez, je me suis trop enthousiasmé, j'ai trop pleuré, maintenant, faites ce que vous voulez, je m'en vais.
C'était une vraie vocation. En même temps, dès qu'elle était en train de tourner un film, un rideau tombait.
Georges Kiechmann.
Entre elle et les autres. Puis à peine le rideau se relevait parce que le film était fini, elle vous appelait à 8 heures du matin comme si elle vous avait quitté la veille et comme si les affaires reprenaient. Et les affaires, c'était évidemment la solidarité envers un tel, la pétition pour un tel, obtenir d'un patron de radio qu'il fasse une émission sur une cause qu'il méritait. C'était une agitatrice infatigable. Mais c'était une agitatrice d'une grande sincérité. Je ne crois pas qu'on puisse dire que cette agitation politique, ce soutien des autres, servait à sa gloire, parce que à cette époque-là, ça aurait plutôt été le contraire. Hein. C'est vrai que les actrices engagées, on n'y tenait pas tellement.
Oui, c'est un peu un monstre, oui, parce que c'est une personnalité, effectivement, qui dépasse le cadre de notre métier, de notre profession. Et puis, quand elle est dans une aventure, elle aime bien... non pas en être à la tête, mais en être quand même le noyau.
C'était sûrement pas une emmerdeuse. C'était une personne qui disait ce qu'elle pensait. Et les gens n'aiment pas ça. Je vous donnais juste un exemple. Elle avait donné un livre, un scénario à lire à un producteur célèbre, pour lui dire ce qu'il a pensé et s'il voulait le produire. Et ce producteur célèbre, reviens, j'étais présent, de Jeunesse, c'était à Saint-Paul-de-Vence, et lui dit, alors, tu l'as lu, le livre? Il dit, oui, je l'ai lu. Et lui dit alors, et il a commencé à dire des choses générales. J'ai vu Simone, il n'y croyait pas beaucoup. Je la connaissais bien alors. Il lui dit, mais alors la scène du docteur, avec la scène là, qu'est-ce que tu en penses de ce docteur? Parce que moi j'ai de difficulté à la jouer, cette scène. Il dit, oui, en effet, c'est une scène difficile, il faudrait peut-être la travailler de nouveau, etc. Il lui dit, Raoul, il n'y a pas de scène de docteur, tu n'as pas eu le scénario. Voilà. Alors évidemment, les gens la prenaient pour une emmerdeuse. Ce n'était pas une emmerdeuse, c'était quelqu'un qui disait ce qu'il pensait.
La prestation de Simone Signoret dans Les Diaboliques est vraiment passionnante. On ne sait pas si c'est délibéré, on ne sait pas si c'est le fruit des hasards, mais toujours est-il que le film s'est fondé sur un conflit entre Henri-Georges Clouzot et Simone Signoret. Le couple Montand et le couple Clouzot, Vera Clouzot, Henri-Georges Clouzot, se connaissaient, passaient des vacances ensemble, avec des rapports, tous ceux qui les ont observés, il y avait des hauts et des bas, c'est-à-dire qu'il y avait à la fois des rapports de haine et de séduction. Et quand il a voulu faire Les Diaboliques, l'objet même au centre du film, il y avait l'épouse de Clouzot, Vera Clouzot, qui n'était pas comédienne, qui n'avait pas le talent, l'expérience et la photogénie de Simone Signoret. Et Simone Signoret, elle était là un petit peu parce qu'elle était quelqu'un que Vera Clouzot connaissait, donc elle n'était pas tout à fait perdue. Et très rapidement, sentant ça, Simone Signoret s'est vraiment écharpée très régulièrement et très violemment avec Henri-Georges Clouzot. Il y a eu des discussions très vives sur le plateau. Elle, de surcroît, est partant pour répéter une pièce, tournant dans la journée et répétant le soir, étant extrêmement épuisée, livre une prestation qui est parfaitement en phase avec le personnage, extrêmement dure. On ne peut pas s'empêcher de penser que c'est le résultat des rapports avec Clouzot. Simone Signoret est tout à fait admirable dans le film.
Bon, eh bien, mes petits-enfants, amusez-vous bien. Moi, je me lève de très bonne heure demain matin, j'ai fermé mes valises.
Je dois vous dire une chose, c'est que ma femme,
vous Simone Signoret,
joue du piano.
Ouais.
Elle joue du piano.
Elle vous accompagne, non?
Non.
Joue du piano.
Ouais. Elle joue du classique, elle joue, elle a une facilité. Pour ça, pour jouer du piano, il y a des gens.
C'est ça. Son mari chante et elle joue du piano.
Le comble de tout ça et la beauté de tout ça, je dois dire très honnêtement, c'est quand, à mes rares moments...
C'est une période de sa vie où la carrière de Simone Signoret est vraiment à son creux. Les films s'enchaînent sans grand succès. Elle est un petit peu perdue. La quarantaine approche. Vous avez la concurrence Brigitte Bardot qui est en train de balayer un certain nombre de comédiennes dans le cinéma français. Je crois qu'elle a eu un deuil dans sa famille, je crois qu'elle a perdu son frère, donc elle se cherche un petit peu. Et l'issue va se trouver en Angleterre, avec un cinéaste qui va l'appeler, qui s'appelle Peter Glanville, qui veut la faire tourner à Hollywood, qui veut lui faire tourner un film aux États-Unis. C'est compliqué, c'est très compliqué, parce qu'à l'époque, elle est très marquée politiquement, la chasse aux sorcières est en train de retomber. Il n'empêche qu'il y a quand même des restes suffisamment forts pour que l'obtention d'un visa pour Simone Signoret et Yves Montand soit compliquée. L'affaire en reste là. Mais Peter Glanville ne lâche pas le morceau, revient quelques semaines plus tard, changeant de réalisateur, il n'en sera plus moi, mais un réalisateur qui s'appelle Jack Clayton, lui proposant l'adaptation d'un roman qui a été un immense succès en Angleterre, qui s'appelle Les Chemins de la Haute Ville, Room at the Top, qui raconte l'histoire d'un arriviste qui, grosso modo, cherche à épouser la fille du patron, tout en tombant amoureux d'une femme plus âgée que lui, une quadragénaire, qui est Simone Signoret.
There's something you have never understood, Joe. These people at the top, they are the same as anybody else. But you had it inside of you to be so much bigger than any of them. You just had to be yourself. That was all.
Et Simone Signoret tourne ce film sans même oser dire qu'elle tourne un film en Angleterre. Parce qu'à l'époque, le cinéma anglais n'existe pas. Donc c'est vraiment quasiment une punition que de partir dans le Yorkshire pour tourner ce film. Qui va être un triomphe partout, sauf en France. Alors pourquoi ? Le film est assez salé quand même, surtout pour l'époque. Il a été exploité en Angleterre et le distributeur a eu beaucoup de mal à trouver un circuit de salle pour le programmer, car on y parle de sexe de façon relativement crue pour l'époque. C'est Simone Signoret qui tient ce rôle-là. Et en France, c'est un côté un petit peu Stendhal. On est un petit peu dans le rouge et le noir, et Simone Signoret est un peu une Madame de Rênal. Donc ce qui ne surprend absolument pas les Français pour l'époque, pour le coup, surprend beaucoup les Britanniques qui vont faire réserver au film un triomphe, qui vont donner un prix une nouvelle fois à Simone Signoret pour son interprétation dans Les Chemins de la Haute Ville. Elle joue avec Laurence Harvey. Elle va même recevoir un prix au Festival de Cannes, le prix d'interprétation féminine, et tout ça dans l'indifférence la plus totale du public français.
Ladies and gentlemen, Mr. Rock Hudson. Congratulations to those five talented ladies nominated for Best Performance by an Actress. Doris Day, Pillow Talk. Audrey Hepburn, The Nun's Story. Katharine Hepburn, Suddenly Last Summer. Simone Signoret, Room at the Top. And Elizabeth Taylor for Suddenly Last Summer.
Le film a une notoriété beaucoup plus grande en Angleterre et aux États-Unis qu'en France. Et d'ailleurs, très peu de temps après, elle va suivre Yves Montand qui va entamer une tournée aux États-Unis. C'est la fameuse tournée où Montand va rencontrer Marilyn Monroe et Arthur Miller, mais aussi Marilyn Monroe. Et quand les deux vont arriver là-bas, Montand et Simone Signoret, Montand effectivement une espèce d'attraction locale, ils se rendent compte tous que Simone Signoret est devenue extrêmement populaire grâce à son rôle dans Room at the Top. Tellement populaire que, en même temps que Montand connaît la gloire de Broadway, petit à petit, Simone Signoret commence à connaître la gloire d'Hollywood, reçoit des propositions sur place de Lia Kazan, de George Cukor. On commence à parler d'elle pour l'Oscar. Elle est nominée pour l'Oscar, ce qui est rarissime pour une comédienne non américaine. Et mieux encore, elle va recevoir l'Oscar de la meilleure comédienne au mois d'avril 1960, à la surprise générale. C'est la première fois, on peut dire, qu'une comédienne française reçoit ce prix. Il y a bien eu Claudette Colbert à l'époque, qui est plutôt une comédienne américaine. C'est la première fois qu'une comédienne française soit récompensée.
Oh, I thank you. I thank you so much. I wanted to be very dignified and all that. I can't. You can't imagine what it is for me being French. You can't imagine. And I want to thank Jimmy Wolfe and Jack Clayton and Laurence Harvey, because it looks a little corny to say that, but you know that without them I would have never been here tonight.
Each time a lovebird sings, I have no defenses. My heart is off on wings, along with my senses.
I'm a set up for the moon when it's bright. I'm incurably romantic.
Ce que j'aime le moins chez Signoret, c'est mon temps, c'est son mari. Que quand même jusqu'à la fin, elle a défendu, bon, qu'elle l'ait défendu en tant que son homme, ça c'est admirable et juste.
Michel Schneider.
En tant que acteur, chanteur et militant politique, ça me paraît un peu excessif. Je trouve que Montand était un très mauvais acteur. Bon, et je n'aime pas du tout ces revirements politiques opportunistes. Bon. Mais dans l'affaire qui les a réunis tous les trois, Marilyn, Simone Signoret et Yves Montand, elle a fait preuve d'une très grande clairvoyance, d'une grande intelligence dans la perception de ce qu'était Marilyn. Et réciproquement, Marilyn aussi a trouvé en Signoret une, peut-être pas une amie, mais en tout cas une présence juste, forte. Et celui qui a le mauvais rôle dans cette affaire, le lâche, c'est Montand, qui s'est quand même très très mal comporté, et vis-à-vis de l'une et vis-à-vis de l'autre, en mentant, en disant qu'il n'y avait rien eu, puis en disant ensuite qu'il y avait eu quelque chose, mais que c'était cette petite conne qui s'était jetée sur lui et qu'il s'était laissé faire. Bon, et Signoret, elle, au contraire, a montré une capacité d'empathie, d'affection pour cette femme délabrée qui était Marilyn à l'époque, qui est tout à fait à son honneur. Je veux dire, elle n'a pas joué la femme outragée, trahie, trompée. Elle a compris que la plus trahie des deux, la plus malheureuse des deux, dans l'issue de cette affaire, était Marilyn. Chez Signoret, je pense que la blessure doit être plus profonde que ce qu'elle a bien voulu reconnaître et publier. Mais pour autant, je crois qu'elle avait eu, elle a eu une capacité d'élaboration de ce traumatisme, de ce choc, d'avoir été doublée par une aussi belle et radieuse beauté que celle de Marilyn. Elle a probablement réussi à en faire quelque chose, bon, et à ne pas garder cette blessure trop vive. Maintenant, les blessures de trahison, on peut les oublier, mais on peut pas les pardonner.
Après le voyage aux États-Unis, après l'histoire Marilyn, comme on l'appelle, les relations ont évidemment changé entre les deux. Je pense que c'est une véritable faille quand même dans leur couple. C'est un moment extrêmement difficile. Douloureux parce que ça a été une vraie histoire d'amour entre Montand et Marilyn. Hein. La relation du couple a été après plus distendue. Ce qui est évident, c'est que d'une certaine manière, ils ne se supportaient plus. La vie professionnelle était commode parce que les tournages, les tournées, etc. faisaient qu'ils soignaient. Et en même temps, ils ne pouvaient pas se passer l'un de l'autre. Moi, j'ai lu des lettres de Simone à Montand dans les années 80. Bon, il y a un attachement viscéral. Moi, je pense qu'il est resté au-delà des formes d'éloignement, de toutes les aventures féminines de Montand qui ont été extrêmement nombreuses dans les années 60-70. Il est resté entre eux un lien absolument indestructible, des deux côtés.
Après l'Oscar, il y aura un double mouvement. Elle va entamer une carrière internationale qui la fera jouer avec des metteurs en scène tels que Sidney Lumet ou Stanley Kramer dans La Nef des Fous, où elle jouait avec Vivien Leigh, qui, entre parenthèses, était celle qui était pressentie pour jouer dans Les Chemins de la Haute Ville, donc tout se retrouve. Et elle va entamer une carrière un petit peu en dancy en France, avec des apparitions, avec des rôles, se consacrant plutôt à des engagements politiques, se consacrant plutôt à accompagner Yves Montand. Mais il y a quand même des rôles extrêmement forts, extrêmement importants, comme Le Jour et l'Heure, par exemple, de René Clément, où elle est tout à fait admirable, en résistante, qui accompagne un parachutiste américain incarné par Stuart Whitman, où il traverse la France de l'occupation, dans un film absolument magnifique et très très méconnu de René Clément, donc fait partie des très grands rôles de cette période-là, qui sont pas si nombreux que ça, en fait, parce qu'effectivement, si elle joue dans Compartiment Tueur, le premier film de Costa Gavras, il y a au moins une quinzaine de vedettes qui apparaissent dans le film, de Yves Montand à Jean-Louis Trintignant, donc en passant par Michel Piccoli, enfin, il y a beaucoup de monde. Mais ce ne sont pas des apparitions qui sont extrêmement marquantes.
D'abord, j'en veux un, moi aussi.
À quoi ?
L'animal. Toi, t'as lui. Moi, j'ai rien. Je peux plus rester sans rien. Alors, je veux une bête à moi.
Eh ben, t'as qu'à acheter un perroquet, comme ça, vous parlerez ensemble et tu me foutras la paix.
Salaud. puis d'abord, je veux plus jamais voir ce chien-là dans ma chambre.
Dans ma chambre, dans notre chambre, et sur mon lit. Mais ma parole, t'as la maladie de la persécution. C'est pas de sa faute, ta pauvre bête, si t'en veux au monde entier.
Je m'en fous du monde entier.
Oh, écoute, on va pas continuer à se bagarrer, moi je vais dîner.
Ah non, tu iras pas dîner, ce serait trop simple.
Oh, écoute, les scènes, c'est plus de ton âge, non? Ton emploi, c'est pas fait dans ces Medrano, alors?
Alors voilà, le typographe à la retraite, qui se prend pour Zola. L'anard petit bourgeois qui n'aime plus que son gros minou. Miaou, miaou, miaou.
Si tu voyais ta gueule, t'es pas belle à voir. Tu dégringoles de plus en plus tous les jours.
Elle commence à être assez marquée physiquement. Et elle prend une décision qui est tout à fait admirable. Beaucoup de personnes l'ont relevé, à juste titre. C'est qu'elle va accepter son âge. Et à 50 ans, elle va accepter des rôles de 70 ans. Ce qui est quand même très gonflé pour une actrice. Mais ce qui lui permettra d'avoir une dernière partie de carrière beaucoup plus brillante que beaucoup de comédiennes qui n'ont pas su accepter ça. Et le film qui va marquer véritablement le début de cette nouvelle carrière, qui va lui permettre de rencontrer des réalisateurs tels que Patrice Chéreau, Alain Corneau, Moshe Misrahi et Pierre Granier-Defer, qui lui fait tourner face à Jean Gabin, Le Chat, une adaptation de Georges Simenon, où ces deux monstres sacrés qui vont s'affronter, donc Jean Gabin et Simone Signoret. Et contre toute attente, les deux vont s'entendre merveilleusement bien. C'est-à-dire que d'un côté, au début, Jean Gabin a un petit peu peur que Simone Signoret vienne lui faire de la morale politique, lui vienne lui parler des rouges, comme il dit. Simone Signoret a peur de se retrouver face à, entre guillemets, un vieux con bourgeois qui n'intéresse qu'à ses chevaux et à ses haras. Et très rapidement, Simone Signoret va séduire véritablement Jean Gabin. Elle va se mettre au diapason. Elle va adopter les méthodes de Gabin qui consistent à être toujours présent sur le plateau, même si vous n'avez rien à y faire. Et d'ailleurs, Gabin lui rendra la réplique, entre guillemets, muette, quand Simone Signoret a un long monologue dans lequel elle se met à imiter les miaulements du chat. Et Gabin sera en face d'elle pour voir, pour lui rendre le regard, comme il disait à l'époque. Et le couple va extrêmement bien fonctionner pour un film qui sera un succès et va relancer la carrière de Simone Signoret pendant une quinzaine d'années.
Que pensiez-vous de Jean Gabin, Simone Signoret, avant de le rencontrer et de travailler avec lui?
Bon,
rien. Tu pensais rien, quoi?
Non. Je continue d'ailleurs.
Bah voyons.
Hein? Ah, toi aussi, hein?
Bah alors.
Moi, je suis très contente.
Et comment analysez-vous la présence extraordinaire de Jean Gabin, la présence dont tout le monde parle?
Vous voyez, tout ça, il faudrait me demander ça s'il n'était pas sous mon nez.
Et à vous, Jean Gabin, je peux vous demander quand même. Qu'est-ce que vous demandez à moi? Du talent de Simone Signoret.
C'est une très belle histoire. Et puis elle va être de première dedans. La Simone, elle va être de première dans le film. Alors, c'est ça qu'il faut.
Et le chat,
il est formidable.
S'accepter tel qu'on est, c'est quand même... Il faut un grand courage. Se montrer tel qu'on est et tel que... On n'a plus été la beauté irradiante qu'était Signoret au moment de Casque d'Or. Ça relève aussi d'un courage moral et absolument pas d'une exhibition comme beaucoup de vieilles actrices ne peuvent pas s'empêcher de paraître à l'écran, refaites, tirées, arrangées comme on le peut. Il y a la tragédie du vieillissement, elle l'a accepté dans sa chair.
Interactualité 1, première.
Dans Les Granges Brûlées, nous retrouvons le couple Signoret-Delon de la veuve Coudert, mais on a l'impression que Simone Signoret vous a subjugué comme comédienne, comme elle subjugue sa famille dans votre film.
Oui, absolument. C'est une femme que je connais, une actrice que je connais depuis assez longtemps. Une quinzaine d'années, et j'ai vraiment eu envie d'écrire ce scénario pour elle, complètement construit pour elle.
Vous avez toujours vécu ici?
Ah oui, on a été à Paris deux fois, pour notre première voiture.
Elle n'était jamais aussi bonne, effectivement, qu'en rendant la réplique ou en donnant la réplique à Alain Delon, par exemple, avec qui il va tourner deux fois, dans La Veuve Coudert et Les Granges Brûlées, de Jean Chapeau, à Jean Rochefort, dans Cette chair inconnue, à Philippe Noiret, dans L'Étoile du Nord. À chaque fois, on la mettra en face de grands comédiens, et les choses se dérouleront de façon tout à fait admirable dans la plupart des cas, notamment, je pense, aux trois films qu'elle a fait avec Pierre Granier-Defer, même si dans un film comme Judith Terpauve, de Patrice Chéreau, qui était le deuxième film, je crois, de Patrice Chéreau. Elle est tout à fait géniale en patronne de presse. Chéreau l'avait déjà testée dans La chair de l'orchidée, où il avait quelques scènes où elle était bouleversante.
Les cinq nominations pour la meilleure actrice sont Brigitte Fossé pour Les Enfants du placard, Isabelle Huppert pour La Dentelière, Miu Miu pour Dites-lui que je l'aime. Delphine Seyrig pour Repérage. Simone Signoret pour La vie devant soi.
La gagnante est Simone Signoret pour La vie devant soi.
Il faut plus interpréter ce genre de César comme une consécration, comme une sorte de César d'honneur qu'on attribue à quelqu'un pour l'ensemble de son œuvre que pour un rôle extrêmement précis. Le public a apprécié le courage quand même de Simone Signoret, de se montrer comme ça, de se montrer en Madame Rosa. Toutes les comédiennes ne l'ont pas fait. Et le fait qu'elle accepte, non seulement qu'elle accepte, mais qu'elle provoque ce genre de film, montre à quel point elle était courageuse, qu'elle était intelligente. Et le public s'en est bien rendu compte à ce moment-là, elle est devenue une actrice de composition.
Je ne sais pas très bien quoi penser de tout ça. Je suis très contente, bien sûr. Je serais vraiment quelqu'un de très mal élevé, de pas gentil, de pas être contente. Mais je pense que aussi, quand on est à défendre un truc aussi, un gâteau aussi énorme que celui que j'avais à défendre, c'est pas très juste la compétition, parce que, bon, c'est très rare dans la vie d'une actrice d'avoir joué Madame Rosa, hein. Bon, alors, les gamines, là, elles ont fait des très belles choses aussi, et je trouve que c'est un petit peu inégal comme compétition, voilà.
Le gâteau énorme, c'est La vie devant soi.
Le gâteau énorme, c'est Rosa, oui. C'est ce qu'il y avait à faire dans ce dans cette histoire-là. Alors je mesure à quel point c'est pas tout à fait juste. Parce que pour le louper, celui-là, il aurait fallu avoir vraiment pas de talent du tout.
Je pense qu'elle parlait au cœur des Français. Elle regrettait d'ailleurs parfois de n'avoir pas été utilisée par les réalisateurs de la nouvelle vague. Godard, qui a utilisé Montand, mais en le ridiculisant un peu, il faut bien dire, ou Truffaut, je pense qu'elle aurait aimé tourner avec eux, ou Rivette, ou Demy. C'est ça qui est étrange, c'est que Demy a utilisé Montand, Godard, ils n'ont jamais fait appel à Simone. Alors, c'est sûrement un petit regret chez elle, pour pas dire rancœur. Il faut savoir que Simone, avant d'être écrivain, était une conteuse extraordinaire et que ses amis intimes connaissaient presque par cœur sa version de sa jeunesse, de ses relations avec ses parents, avec sa carrière, et ils connaissaient cette biographie orale qui finalement a été transcrite dans l'écrit du livre qui s'est appelé « La nostalgie n'est plus ce qu'elle était » d'après un graffiti new-yorkais qui était soit celui-là, soit l'avenir n'est plus ce qu'il était, je ne sais plus très bien. Mais ce premier livre autobiographique l'avait convaincue qu'elle pouvait écrire, et donc elle a écrit, non seulement ensuite pour se plaindre qu'on avait pu menacer, ou plutôt mettre en doute sa qualité d'écrivain, c'est cet ouvrage qui s'appelle « Le lendemain, elle était souriante », elle a également écrit un roman qui se passe en Russie, enfin tout ça pour essayer de purger ses relations difficiles avec l'Union soviétique à travers un roman. Mais les éditeurs, au lieu de la considérer comme un écrivain savoureux, talentueuse qu'elle était, la voyaient surtout comme la source de fils et un best-seller. Elle ne voulait pas être l'auteur de best-seller, elle voulait être l'écrivain Simone Signoret.
Alors j'ai regardé la presse, oh là 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 là, oh mes enfants, mais alors c'est formidable, hein. Qu'est-ce que... Alors je vais le lire comme ça, hein. Je sais que ça va vous gêner, si ça va vous gêner, mais écoutez, c'est mon boulot, hein. Là c'est moi qui décide. Hein. Alors là, on n'est pas chez vous, là. Hein. Claude Roy, par exemple, Nouvel Observateur, Adieu Volodia, c'est le roman que des dizaines de raconteurs professionnels rêvent d'écrire. Populaire dans les bons sens qu'a le terme. Et oui, Jean de Lettres, baissez le nez, Signoret l'actrice, la comédienne, la star, l'amateur, vous fait souvent la nique, elle est souvent bien plus et meilleur écrivain que la plupart de vous. Comment vous réagissez devant cette presse
magnifique? Adieu Volodia, je réagis très 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 bien.
C'est l'événement, on le sait, de cette... de l'année, de ce début d'année, Simone Signoret qui publie aux éditions Fayard son premier roman, Adieu Volodia.
J'avais envie d'écrire parce que j'avais fini de jouer, que quand je finis de jouer, maintenant, à l'âge que j'ai plutôt envie d'écrire que d'aller faire des croisières, par exemple. Mmh. Et puis je croyais que j'allais raconter une des histoires qui me sont arrivées à moi et que j'ai pas mises dans la nostalgie, ça, et que j'allais pouvoir tricher et mettre un jeu à elle à la place d'un jeu. Et puis je me suis aperçu que c'était pas possible, qu'on peut pas, on peut pas faire les deux, servir d'une histoire vraie qui vous est arrivée et en même temps faire croire que c'est un roman.
Elle passe sa vie à dire qu'elle est laide. Elle passe sa vie à dire, quand on tourne, ne me prenez pas en plan général, je suis monté sur aiguille à tricoter.
Marcel Bluval.
C'est-à-dire que sans mollet. Et elle trouvait ça laid. Elle passe son temps à, non pas à se maquiller du tout, elle dit, je devrais pas me maquiller, je suis encore mieux quand je suis pas maquillé. En réalité, elle fait très attention à son maquillage, elle est très préoccupée par son vieillissement, en fait. Mais ce qu'on ne savait pas encore à cette époque-là, c'est à quel point elle perdait la vue sur Thérèse Imbert. On ne savait pas encore, et on ne savait pas qu'elle était menacée par un cancer généralisé. En
fait. Il y avait un truc que je voulais faire depuis très longtemps, c'est Thérèse Imbert, la femme escroc. J'ai pensé longtemps qu'on allait le faire au cinéma, on l'a pas fait au cinéma, on l'a fait pour la télé. C'était mon seul petit coin de verdure que j'avais gardé comme ça en disant je voudrais bien la jouer un jour celle-là.
Elle aimait la justice, hein. C'est un champ clos où les idées s'affrontent un peu comme dans la tragédie grecque, le pathos selon Jean-Paul Sartre. Alors Simone, c'est une militante, quelqu'un qui a beaucoup de cœur et qui passe son temps à mettre en mouvement ses amis. Alors l'affaire Goldman, non seulement elle a fait partie de son comité de soutien, elle est venue tous les jours à l'audience du deuxième procès au cours duquel Goldman a été lavé de l'accusation d'avoir tué deux pharmaciennes, et elle n'a pas assisté aux plaidoiries. Parce que elle était déjà en route le dernier jour pour Aix-en-Provence, je crois, où elle devait incarner un juge d'instruction. Et au fond, ça lui plaisait, ça, d'être immergée dans la justice de toutes les manières. Un jour, j'ai dit à mon temps une phrase de Scott Fitzgerald qui, en gros, disait le propre d'une intelligence de premier plan, c'est de pouvoir fonctionner sur deux idées contraires à la fois. C'est ainsi qu'il faut savoir que les choses sont sans espoir et continuer à les changer. Et mon temps m'a dit, dis donc petit, tu m'autorises à le dire ça. Mais ce qu'on peut dire, c'est que ça aurait très bien correspondu à ce que pensait vraiment Simone. Elle savait qu'à bien des égards, les choses c'était sans espoir, mais que ça valait toujours la peine d'essayer quand même de les changer.
Moi, je préfère me tromper et qu'on me prouve que je me suis trompé, mais tant pis si j'ai été trompé ou cocu, comme on dit volontiers dans ce domaine. Mais dans le moment où je l'ai été parce que c'était probablement bien de l'être. Un des grandes plaies ouvertes pour Montand et moi, par exemple, c'est d'avoir pu croire que des Rosenberg innocents étaient électrocutés en Amérique, pendant qu'on nous faisait croire que des coupables qui disaient leur culpabilité dans les pays de l'Est réclamaient le châtiment alors qu'ils récitaient un texte qu'on leur avait fait apprendre de force, par cœur. Des découvertes comme celle-là sont tragiques parce qu'elles elles peuvent tuer en vous toute espèce de possibilité de croire au bien et au mal. Mais si elles les tuent, alors je ne vois pas comment on peut non plus survivre et comment on peut continuer à vivre, à s'exprimer, si on n'est plus capable de s'indigner en se disant « je vais m'indigner aujourd'hui, mais peut-être qu'après-demain, on prouvera que j'avais tort de m'indigner ».
Nous avons Simone Signoret, proposée par Dominique Missica, avec Olivier Barrault, Costa Gavras, Jean-Olé Laprune, Patrick Rothman, Michel Schneider, Georges Kejman, Marcel Bluval, archive Ina Sabine Dahuron, attachée de production Laurence Genepin, prise de son d'Opar Guéride, mixage Valérie Lavalard, réalisation Ghislaine David.
Vous trouverez bibliographie, podcast, réécoute et bonus sur la page de Toute une vie sur franceculture.fr et sur l'application Radio France. Excellente fête à l'écoute de France Culture.